Ce livre a été enregistré à l'intention de l'Institut national des jeunes aveugles. La voie royale, voie VOIE, le chemin, la route, par André Malraux. Le livre de poche, 1980, page 5. Première partie, chapitre 1er. Cette fois, l'obsession de Claude entrait en lutte. Il regardait opiniâtrement le visage de cet homme et tentait de distinguer enfin quelque expression dans la pénombre où le laissait l'ampoule allumée derrière lui. Forme aussi indistincte que les feux de la côte Somalie, perdus dans l'intensité du clair de lune où miroitaient les salines. Un ton de voix d'une ironie insistante qui lui semblait se perdre aussi dans l'obscurité africaine, y rejoindre la légende que faisait rôder autour de cette silhouette confuse les passagers avides de potins et de manilles, la trame de bavardage, de romans et de rêveries qui accompagnent les Blancs qui ont été mêlés à la vie des États indépendants d'Asie. Les hommes jeunes comprennent mal, comment dites-vous, l'érotisme. Jusqu'à la quarantaine, on se trompe. On ne sait pas se délivrer de l'amour. Un homme qui pense non à une femme comme au complément d'un sexe, mais au sexe comme au complément d'une femme, est mûr pour l'amour. Tant pis pour lui. Mais il y a pis. L'époque où la hantise du sexe, la hantise de l'adolescence revient plus forte, nourrie de toutes sortes de souvenirs. Claude, sentant l'odeur de poussière, de chanvre et de mouton attachés à ses habits, revit la portière de sac légèrement relevée, derrière laquelle un bras lui avait montré tout à l'heure une adolescente noire, nue, épilée, une éblouissante tache de soleil sur le sein droit pointé et le pli de ses paupières épaisses qui exprimaient si bien l'érotisme, le besoin maniaque, le besoin d'aller jusqu'au bout de ses nerfs, disait Perken. P-E-R-K-E-N. Celui-ci continuait. Il se transforme les souvenirs. L'imagination, quelle chose extraordinaire, en soi-même et étrangère à soi-même. L'imagination, elle compense toujours. Son visage accentué sortait à peine de la pénombre, mais la lumière luisait entre ses lèvres, sur le bout de sa cigarette, dorée sans doute. Claude sentait que ce qu'il pensait approchait peu à peu de ses paroles, comme cette barque qui venait à lente foulée, le reflet des feux du bateau sur les bras parallèles des rameurs. Que voulez-vous dire exactement? Vous comprendrez de vous-même un jour ou l'autre. Les bordels somalis sont pleins de surprises. Claude connaissait cette ironie haineuse qu'un homme n'emploie guère qu'à l'égard de soi-même ou de son destin. Plein de surprises, répéta Perken. Lesquels ? Se demandait Claude. Il revoyait les taches des lampes à pétrole, entourées d'insectes, les filles au nez droit, sans rien qui appelât le mot négresse, sinon le blanc éclatant de l'œil entre la prunelle et la peau sombre. Soumises à la flûte d'un aveugle, elles avançaient en rond, chacune frappant avec rage la croupe trop forte de celle qui la précédait. Et d'un coup, leurs lignes se rompant avec la mélodie, chacune soutenant de la voix la note charnelle de la flûte, s'arrêtant, la tête et les épaules immobiles, les yeux fermés, tendus, se libérant en faisant vibrer sans fin les muscles durs de ses fesses et de ses seins droits dont la sueur accentuait le frémissement sous la lampe à pétrole. La patronne avait poussé vers Perkin une fille toute jeune qui souriait. « Non, dit-il, l'autre là-bas, au moins, ça n'a pas l'air de l'amuser. » « Sadique ?» se demandait maintenant Claude. On parlait des missions que le Siam lui avait confiées auprès des tribus insoumises, de son organisation du pays Shan et des marches laotiennes, de ses rapports singuliers avec le gouvernement de Bangkok, tantôt cordiaux, tantôt menaçants, de la passion qu'on lui prêtait naguère pour sa domination, pour cette puissance sauvage sur laquelle il ne permettait pas le moindre contrôle, de son déclin, de son érotisme. Pourtant, sur ce bateau, il eût été entouré de femmes s'il ne s'en fût défendu. Il y a quelque chose, mais ce n'est pas le sadisme. Perkin reposa sa tête sur le dossier de sa chaise longue. Son masque de brute consulaire apparut en pleine lumière, accentué par l'ombre des orbites et du nez. La fumée de sa cigarette monta, droite, se perdit dans l'intensité de la nuit. Le mot sadisme restait dans l'esprit de Claude, y appela un souvenir. Un jour, on me mène à Paris dans un petit bordel minable. Au salon, il y avait une seule femme attachée sur un chevalet par des cordes, un peu grand guignol, les jupes relevées. De face ou de dos ? De dos. Autour, 6 ou 7 types. Oh, petits bourgeois, cravate toute faite et veston d'alpaga. C'était en été, mais il faisait moins chaud qu'ici. Les yeux hors de la tête, les joues cramoisies, s'efforçant de faire croire qu'il voulait s'amuser. Ils s'approchaient de la femme l'un après l'autre, la fessaient, une seule claque chacun, payaient et s'en allaient ou montaient au premier étage. C'était tout, tout, et très peu montaient, presque tous partaient. Les rêves de ces bons hommes qui repartaient en remettant leur canotier, en tirant les revers de leur veston. Des simples tout de même. Perkin avança le bras droit, comme pour accompagner d'un geste une phrase, mais hésita, luttant contre sa pensée. L'essentiel est de ne pas connaître la partenaire, qu'elle soit l'autre sexe, qu'elle ne soit pas un être qui possède une vie particulière. Dans le masochisme, plus encore, ils ne se battent jamais que contre eux-mêmes. À l'imagination, on annexe ce que l'on peut et non ce que l'on veut. Les plus stupides des prostituées savent combien l'homme qui les tourmente ou qu'elles tourmentent est loin d'elles. Savez-vous comment elles appellent les irréguliers ? Des cérébraux. Claude pensa que le mot irrégulier, lui aussi, il ne quittait plus du regard ce visage tendu. Cette conversation était-elle orientée ? Des cérébraux, reprit Perkin, et elles ont raison. Il n'y a qu'une seule perversion sexuelle, comme disent les imbéciles. C'est le développement de l'imagination, l'inaptitude à l'assouvissement. Là-bas, à Bangkok, B-A-N-G-K-O-K, j'ai connu un homme qui se faisait attacher nu par une femme dans une chambre obscure pendant 1 heure. Eh bien, c'est tout. C'était suffisant. Celui-là était un perverti parfaitement pur. Il se leva. Veut-il dormir, se demanda Claude, ou rompre cette conversation? À travers la fumée qui montait, Perkin s'éloignait, enjambant l'un après l'autre les négrillons qui dormaient entre les paniers de coraux, la bouche ouverte, rose. Son ombre se raccourcissait. Celle de Claude resta seule allongée sur le pont. Ainsi, son menton avançant semblait presque aussi vigoureux que les mâchoires de Perkel. L'ampoule bougea et l'ombre commença à trembler. Dans 2 mois, que resterait-il de cette ombre et du corps qu'elle prolongeait? Forme sans yeux, sans ce regard résolu et anxieux qu'il exprimait bien plus ce soir que cette silhouette virile qu'allait traverser le chat du bord. Il avança la main. Le chat s'enfuit. L'obsession retomba sur lui. Encore 15 jours de cette avidité. 15 jours à attendre sur ce bateau avec une angoisse d'intoxiqué privé de sa drogue. Il sortit une fois de plus la carte archéologique du Siam et du Cambodge. Il la connaissait mieux que son visage. Il était fasciné par les grandes taches bleues dont il avait entouré les villes mortes, par le pointillé de l'ancienne voie royale, par sa menaçante affirmation, l'abandon en pleine forêt siamoise. Au moins une chance sur deux d'y claquer. Piste confuse avec des carcasses de petits animaux abandonnés près de feux presque éteints. Fin de la dernière mission en pays Jaraï. J majuscule A-R-A-I tréma. Le chef blanc, Odendaal, O majuscule, D-E-N-D apostrophe, H-A-L, assommé à coups d'épieux, la nuit, par les hommes du Sadet, S-A-D-E, accent grave, T-E, du feu, dans le bruissement de palmes froissées qui annonçaient l'arrivée des éléphants de la mission. Combien de nuits devrait-il veiller, exténué, harcelé de moustiques, ou s'endormir en se fiant à la vigilance de quelques guides? On a rarement la chance de combattre. Perkin connaissait ce pays, mais n'en parlait pas. Claude avait été séduit d'abord par le ton de sa voix. C'était la seule personne du bateau qui prononça le mot « énergie » avec simplicité. Il y devinait que cet homme aux cheveux presque gris aimait bien des choses qu'il aimait aussi. Il l'avait entendu pour la première fois devant un grand pan rouge de la côte d'Égypte, pan P-A-N. Comptait dans un remous d'intérêt et d'hostilité la découverte de 2 squelettes, des pilleurs de sépultures sans doute, trouvés lors des dernières fouilles de la vallée des rois sur le sol d'une salle souterraine d'où partaient des galeries tapissées à l'infini de momies de chats sacrés. Une expérience assez restreinte avait suffi à lui montrer que les imbéciles sont aussi nombreux parmi les aventuriers qu'ailleurs, mais cet homme l'intriguait. Depuis, il l'avait entendu parler de Mairena, M-A-Y-R-E-N-A, l'éphémère roi des Sedang, S-E-D-A-N-G-S. Je pense que c'était un homme avide de jouer sa biographie, comme un acteur joue un rôle. Vous, Français, vous aimez ces hommes qui attachent plus d'importance à, voyons, oui, à bien jouer le rôle qu'à vaincre. Claude se souvint de son père, qui, à la Marne, quelques heures après avoir écrit « Maintenant, mon cher ami, on mobilise le droit, la civilisation et les mains coupées des enfants. J'ai assisté dans ma vie à 2 ou 3 déferlements d'imbécilité. L'affaire Dreyfus n'était pas mal, mais ceci est assurément supérieur aux essais précédents, en tout point et même en qualité. » Et s'était fait tuer avec un grand courage en service volontaire. Cette attitude, reprit Perkin, exalte la bravoure qui fait partie du rôle. Mairena était très brave. Il a emmené à dos d'éléphant le cadavre de sa petite concubine Cham, C-H-A-M-E, à travers la forêt insoumise, pour qu'elle pût être ensevelie comme les princesses de sa race. Les missionnaires lui avaient refusé leur cimetière. Vous savez qu'il est devenu roi en combattant deux chefs Sedang au sabre, et il a tenu quelque temps au pays Jarai, ce qui n'est pas très facile. Vous connaissez des gens qui ont vécu chez les Jarai? Moi, 8 heures. C'est court, répondit Claude en souriant. Perken sortit de sa poche sa main gauche et la mit sous les yeux de Claude, les doigts écartés. Chacun des trois plus grands était creusé d'un sillon profond, en spirale, comme un tire-bouchon. Avec les mèches, c'est assez long. Blessé de sa maladresse, Claude hésita. Mais Perken revenait à Maïrena. En somme, il est mort bien mal, comme presque tous les hommes. Claude connaissait cette agonie sous une paillote de malaisie. L'homme décomposé par son espoir trompé comme par une tumeur, terrifié par le son de sa voix que répercutaient les arbres géants. Pas si mal. Le suicide ne m'intéresse pas, parce que celui qui se tue court après une image qu'il s'est formée de lui-même. On ne se tue jamais que pour exister. Je n'aime pas qu'on soit dupe de Dieu. Chaque jour, la ressemblance que Claude avait pressentie était devenue plus évidente, accentuée par les inflexions de la voix de Perken, par sa façon de dire « il » en parlant des passagers et peut-être des hommes, comme s'il eût été séparé d'eux par son indifférence à se définir socialement. Sous le ton de cette voix, Claude devinait une expérience humaine vaste, quoique peut-être minée en quelques points, et qui s'accordait à merveille avec l'expression du regard, pesante, enveloppante, mais d'une singulière fermeté lorsqu'une affirmation tendait un instant les muscles fatigués du visage. Maintenant, il était presque seul sur le pont. Il ne dormirait pas. Rêver ou lire. Feuilleter pour la 100e fois l'inventaire, jeter encore son imagination comme sa tête contre un mur, contre ses capitales de poussière, de lianes et de tours à visage, écrasées sous les taches bleues des villes mortes. Et malgré la foi têtue qui l'animait, retrouver ces obstacles qui déchiraient sa rêverie, toujours au même endroit, avec une impérieuse constance. Bab El Mandeb, B-A-B, trait d'union E-L, trait d'union M-A-N-D-E-B, porte de la mort. Pendant chaque entretien avec Perken, les allusions à un passé que Claude ignorait l'irritaient. La familiarité née de leur rencontre à Djibouti, s'il était entré dans cette maison et non dans une autre, c'est qu'il avait entrevu sous le bras tendu d'une grande négresse drapée de rouge et de noir la forme confuse de Perken, ne le délivrait pas de la curiosité angoissée qui le poussait vers lui, comme s'il eût prophétiquement vu son propre destin, vers la lutte de celui qui n'a pas voulu vivre dans la communauté des hommes lorsque l'âge commence à l'atteindre et qu'il est seul. Le vieil Arménien avec qui il marchait parfois le connaissait depuis longtemps, mais il parlait peu de lui, obéissant à une préméditation inspirée sans doute par la crainte, car s'il était le familier de Perken, il n'était certainement pas son ami. Et semblable au bruit constant des machines sous le bruit changeant des paroles, L'obsession de la brousse et des temples revenait, recouvrait tout, reprenait sur Claude sa domination anxieuse. Dans le demi-sommeil, comme si l'Asie eût trouvé en cet homme une puissante complicité, elle ramenait jusqu'aux rêveries nées des chroniques. Départ d'armée dans l'odeur du soir pleine de cigales, avec de molles colonnes de moustiques au-dessus de la poussière des chevaux. Appel des caravanes au passage des guets tièdes. Ambassades arrêtées par la baisse des eaux devant des poissons bleuis par le ciel criblé de papillons. Vieux rois décomposés par la main des femmes. Et l'autre rêverie, indestructible. Les temples. Les dieux de pierre vernis par les mousses. Une grenouille sur l'épaule et leur tête rongée. À terre, à côté d'eux. La légende de Perken, maintenant, rôdait dans le bateau. Passait de chaise longue à chaise longue comme l'angoisse ou l'attente de l'arrivée, comme l'ennui malveillant des traversées. Toujours informe, plus de mystères imbéciles que de faits, plus de gens empressés à confier, entendu, derrière le cornet de leurs mains. Un type étonnant, vous savez, étonnant, que de gens renseignés. Il avait vécu parmi les indigènes et les avait dominés, dans des régions où beaucoup de ses prédécesseurs avaient été tués, sans doute après des débuts assez illégaux. C'était tout ce qu'on pouvait savoir. Et son efficacité tenait vraisemblablement, pensait Claude, à la persévérance dans l'énergie, à l'endurance, à des qualités militaires unies à un esprit assez large pour s'efforcer de comprendre des êtres très différents de lui, plutôt qu'à telles aventures. Jamais Claude n'avait vu à ce point le besoin de romanesque de ses fonctionnaires qui voulaient en nourrir leurs rêves, besoin contrarié aussitôt par la crainte d'être dupe, d'admettre l'existence d'un monde différent du leur. Ces gens acceptaient tout de la légende de Mairena, qui était mort, et peut-être de Perken lorsqu'il était loin. Ici, il se défendait contre son silence, méfiant, avide de se venger par quelque mépris d'une volonté de solitude, parfois nettement exprimée. Claude s'était d'abord demandé pourquoi Perken avait accepté sa présence. Il était le seul qui l'admira et le comprit peut-être, sans tenter de le juger. Il tentait de le comprendre mieux, mais ne pouvait que malaisément unir les anecdotes romanesques, les tubes à messages envoyés pendant l'organisation du pays Shan, au-delà du cercle des sauvages révoltés, dans les cadavres qui descendaient le fleuve, et jusqu'à des histoires de prestidigitation, à ce qu'il sentait d'essentiel en cet homme indifférent au plaisir de jouer sa biographie, détaché du besoin d'admirer ses actes, ému par une volonté profonde dont Claude sentait souvent l'affleurement sans parvenir à la saisir. Le capitaine aussi la sentait. Tout aventurier est né d'un mythomane, disait-il à Claude. Mais l'action précise de Perken, son sens de l'organisation, son refus de parler de sa vie, le surprenaient à l'extrême. Il me fait penser au grand fonctionnaire de l'Intelligence Service, que l'Angleterre emploie et désavoue à la fois. Mais il ne finira pas chef d'un bureau de contre-espionnage à Londres. Il a quelque chose en plus. Il est allemand. Allemand ou danois ? Danois à cause de la rétrocession du Schleswig imposée par le traité de Versailles. Ça l'arrange. Schleswig, S-C-H-L-E-S-W-I-G. Ça l'arrange. Les cadres de l'armée et de la police siamoise sont danois. Oh ! Heimatlos, bien entendu. Heimatlos, H-E-I-M-A-T-L-O-S. C'est un mot allemand qui signifie apatride, sans nationalité. Non, je ne crois pas qu'il finisse dans un bureau. Voyez, il revient en Asie. Au service du gouvernement siamois ? Oui et non, comme toujours. Il va rechercher un type resté en pays insoumis. Resté, disparu, quelque chose comme ça. Et une chose plus surprenante, c'est que maintenant il s'intéresse à l'argent. C'est nouveau. Un lien singulier s'était formé. Claude y pensait dès que l'affaiblissement provisoire de l'obsession le rendait au désœuvrement. Perken était de la famille des seuls hommes auxquels son grand-père, qui l'avait élevé, se sentit lié. Lointaine parenté, même hostilité à l'égard des valeurs établies, même goût des actions des hommes liés à la conscience de leur vanité, même refus surtout. Les images que Claude entrevoyait de son avenir étaient partagées entre ses souvenirs et cette présence qui le requérait comme une double menace, comme les deux affirmations parallèles d'une prophétie. Dans les conversations qu'il avait avec Perken, il ne pouvait opposer à l'expérience, au souvenir de son interlocuteur, qu'une lecture assez étendue. Et il en était venu à parler de son grand-père, comme Perken parlait de sa vie, pour ne pas opposer sans cesse des livres à des actes, pour bénéficier de l'intérêt singulier que Perken portait à cette existence. D'ailleurs, que Perken parlât de lui-même et il faisait surgir en Claude l'impériale blanche du grand-père, son dégoût du monde, les amers récits de sa jeunesse. Sa jeunesse, cet homme fier à la fois de ses ancêtres corsaires perdus au fond de légende et de son grand-père déchargeur de navires, fier de frapper du pied le pont de ses bateaux comme un paysan de flatter ses bêtes, l'avait voué à édifier cette maison Vanek, par quoi il entendait durer. Vanek, V majuscule A2NEC. À 35 ans, il s'était marié. 12 jours après les noces, sa femme retournait chez ses parents. Son père ne voulut pas la voir. Sa mère avait conclu, avec un désespoir usé, « Va, ma petite fille, tout ça, du moment qu'on a des enfants. » Et elle avait retrouvé l'hôtel ancien qu'il avait acheté pour elle. Porte cochère surmontée d'attributs maritimes, cour immense où séchaient des voiles. Elle avait décroché les portraits de ses parents, les avait remplacés par un petit crucifix et jeté sous le lit. Son mari n'avait rien dit. Pendant plusieurs jours, aucun d'eux ne parla. Puis la vie commune recommença. Héritier d'une tradition de travail, haïssant tout romanesque, la rancœur qu'avait fait naître en eux ce premier malentendu ne se traduisit pas par des conflits. Ils firent dans leur vie la part d'une hostilité tacite, comme, infirme, ils eussent fait la part de leur infirmité. Chacun, mal habile à exprimer ses sentiments, pour prouver sa supériorité, s'attacha au travail. L'un et l'autre trouvèrent là un refuge et une passion sournoise. La présence des petits-enfants mêlait à leur vieille hostilité un lien qui la rendait plus douloureuse. Chaque bilan recelait de nouvelles forces de haine. Lorsque marins, mousses, ouvriers, couchés ou partis, la nuit venue sur l'autel et sur les voiles brunes de la cour, quelques heures tardives sonnaient, il n'était pas rare que l'un, penché à sa fenêtre, aperçût de la lumière à la fenêtre de l'autre, et bien qu'exténué, s'attachât à quelque nouveau travail. Elle était phtisique, avec indifférence, et chaque année, il travaillait davantage, afin que sa lampe ne fût point éteinte avant celle de sa femme, qui restait allumée fort avant dans la nuit. Un jour, il s'aperçut que le crucifix avait rejoint sous le lit les portraits des parents. Déconcerté de souffrir non seulement par la mort de ceux qu'il aimait, mais encore par celle d'une femme qu'il n'aimait pas, il supporta sa mort lorsqu'elle arriva avec une résignation écœurée. Il avait de l'estime pour sa femme. Il savait qu'elle avait été malheureuse. Ainsi allait la vie. Ce fut son dégoût plus encore que cette mort qui amena le déclin de la maison. Lorsque les compagnies d'assurance, après le naufrage de sa flotte presque entière au large de Terre-Neuve, refusèrent de payer, lorsqu'il eut passé tout un jour à distribuer aux veuves les piles de billets aussi nombreuses que ces marins morts, avec le plus profond dégoût de l'argent qu'il eût connu, il se sépara de ses entreprises. Et les procès commencèrent. Procès sans nombre et sans fin. Saisi à l'égard des vertus respectées, d'une hostilité qui depuis longtemps couvait, le vieillard, accueilli dans la cour aux voiles, des cirques, auxquels la municipalité refusait l'hospitalité, et la vieille bonne ouvrit à deux battants pour l'éléphant, la porte dont nulle voiture n'avait franchi le seuil depuis des années. Seul, dans la vaste salle à manger, assis dans un fauteuil à torsade, buvant à petits coups un verre de son meilleur vin, il appelait ses souvenirs un à un en tournant les pages de ses livres de comptes. COMPTES. Avec leur 20e année, les enfants avaient quitté la maison de plus en plus silencieuse. Silencieuse jusqu'à ce que la guerre y amena Claude. Son père tué, sa mère qui avait quitté son mari depuis longtemps vint voir l'enfant. De nouveau, elle vivait seule. Le vieux Vanek l'avait accueillie. Il avait si bien pris l'habitude de mépriser les actions des hommes qu'il les enveloppait toutes dans une même indulgence haineuse. Le soir, il l'avait retenue, indignée à l'idée que lui, vivant, sa belle-fille pût habiter un hôtel dans sa ville. Il savait d'expérience que l'hospitalité n'empêche pas la rancune. Ils avaient causé, ou plutôt elle avait parlé. Une femme abandonnée, obsédée par son âge jusqu'à la torture, certaine de sa déchéance, et qui considérait la vie avec une indifférence désespérée. Quelqu'un avec qui il pouvait vivre. Elle était ruinée, sinon pauvre. Il ne l'aimait guère, mais il subissait l'influence d'un étrange esprit de corps. Elle était, comme lui, séparée de la communauté des hommes qui demandent tant d'acceptations stupides ou sournoises. La cousine, trop vieille maintenant, dirigeait mal la maison. Il lui avait conseillé de rester et elle avait accepté. Fardée pour la solitude, les portraits des anciens propriétaires et les attributs maritimes, fardée surtout pour les glaces contre lesquelles elle ne savait se défendre que par les rideaux croisés et les artifices du demi-jour, elle était morte d'un retour d'âge prématuré, comme si son angoisse eût été une prescience. Il avait accepté cette mort avec une approbation sinistre. On ne change pas de religion à mon âge. Que la destinée achevât ainsi le tissu de stupidité dont elle avait fait sa vie, c'était bien. Dès lors, il ne quitta plus guère le mutisme hostile dans lequel il se confinait que pour entretenir Claude. Poussé par un subtil égoïsme de vieillard, il avait presque toujours laissé à la vieille cousine, à la mère ou au professeur le soin de punir l'enfant si bien qu'à Dunkerque, et même plus tard lorsqu'étudiant à Paris l'adolescent connut ses oncles, sa pensée avait toujours semblé à Claude d'une singulière liberté. Dans ce vieil homme simple, grandi par les morts qui l'entouraient et par la lumière tragique dont la mer colore les vies qui lui ont été vouées, il y avait un ecclésiaste inculte, mais qui ne craignait pas le Seigneur. Ecclésiaste, E-2-C-L-E accent aigu, S-I-A-S-T-E. Certaines des phrases par lesquelles il traduisait sa lourde expérience résonnaient en Claude comme le grondement assourdi de la petite porte de l'hôtel, solitaire maintenant dans la rue déserte, et qui, le soir, le séparait du monde. Quand, après le dîner, le grand-père parlait, la pointe de sa barbe touchant sa poitrine, ses paroles méditées troublaient Claude, qui s'en défendait, comme des paroles venues à travers le temps ou la mer, de contrées habitées par des hommes qui eussent connu, mieux que tous les autres, le poids, l'amertume et la force obscure de la vie. Une mémoire, mon petit, c'est un sacré caveau de famille. Vivre avec plus de morts que de vivants. Les nôtres, je les connais bien. En tous, en toi aussi, il y a la même nature. Et quand ils n'en veulent pas, tu sais qu'il y a des crabes qui nourrissent maternellement, sans s'en douter, les parasites qu'ils rongent. Être un Vanek, ça veut dire quelque chose, en bien comme en mal. Quand Claude était parti poursuivre ses études à Paris, le vieillard avait pris l'habitude d'aller chaque jour au mur des marins perdus en mer. Il enviait leur mort et accordait avec joie sa vieillesse et ce néant. Un jour qu'il avait voulu montrer à un jeune ouvrier trollant comment de son temps on fendait le bois des proues, pris d'un étourdissement à l'instant qu'il manœuvrait la hache à deux tranchants, il s'était fendu le crâne. Et Claude, en face de Perken, retrouvait le goût, l'hostilité, le lien passionné qu'il avait attaché à ce vieillard de 76 ans, décidé à ne pas oublier sa maîtrise passée, et qui était mort ainsi, dans sa maison abandonnée, d'une mort de vieux viking. V-I-K-I-N-G. Comment finirait-il celui-là ? Il lui avait répondu un jour devant l'océan. « Je pense que votre grand-père était moins significatif que vous ne le croyez, mais que vous l'êtes, vous, bien davantage. » Comme si tous deux se fussent exprimés par parabole, ils s'approchaient de plus en plus l'un de l'autre, cachés sous les souvenirs. Brouillard rayé, la pluie enveloppait le bateau. Le long triangle du phare de Colombo, C-O-L-O-M-B-O, ramait dans la nuit, au-dessus d'une ligne de points, les docks. Les passagers, réunis sur le pont, regardaient au-delà du bastingage ruisselant le tremblotement de toutes ces lumières. À côté de Claude, un gros homme aidait l'Arménien, courtier en pierre, qui venait acheter à Ceylan, C-E-Y-L-A-N, les saphirs qu'il vendrait à Shanghai, C-H-A-N-G, trait d'union H-A-I-Tréma, à disposer ses valises. Perken, à quelque distance, causait avec le capitaine. Ainsi, de trois quarts, le caractère de son visage devenait moins masculin lorsqu'il souriait surtout. Vous regardez sa bobine au Shang, dit le gros homme. Comme ça, il a l'air d'un brave type. Comment l'appelez-vous? C'est les Siamois qui l'appellent comme ça. L'éléphant, ça veut dire. Pas l'éléphant domestique, l'autre. Physiquement, ça lui va plutôt mal, mais moralement, ça lui va bien. Le coup de fouet du phare les éclaira tous. La tâche du foyer, une seconde, devint éblouissante, puis replongea dans la nuit, ne laissant dans les lumières du paquebot où les gouttes étincelaient en tourbillon qu'un voilier arabe de haut bord, sculpté de la proue à la poupe, immobile et désert, isolé au milieu des masses d'ombre. Perken venait de faire deux pas en avant. D'instinct, le gros homme baissa la voix. Claude sourit. « Oh, il ne me fait pas peur, bien sûr. J'ai 27 ans de colonie, pensez. Mais il m'intimide, si je peux dire. Pas vous ?»« C'est très bien de faire ça au mépris, » répondit l'Arménien, pas très haut. « Mais ça ne réussit pas toujours.
Vous savez très bien le français. »
Il se vengeait d'une humiliation, sans doute. Avait-il attendu pour le faire d'être à l'instant de quitter le bateau? Sa voix n'était pas ironique, mais pleine de rancune. Perken s'écartait de nouveau. Je suis de Constantinople et de Montmartre par mes vacances. Non, monsieur, ça ne réussit pas toujours. Et se tournant vers Claude. Vous en aurez vite assez, comme les autres, pour ce qu'il a fait, lui. Mais s'il avait eu des connaissances techniques, je dis techniques, monsieur, avec sa position, quand il tenait le pays pour le Siam, il aurait pu faire une fortune qui, enfin, je ne sais pas, moi, une fortune. Des deux bras agités, il figurait un cercle, cachant un instant les lumières de la terre, plus nombreuses et plus proches maintenant, mais moins précises, comme si elles fussent devenues humides, spongieuses elles aussi. Songez que dans les marchés siamois, à 12-15 jours des villages insoumis, vous trouvez encore, si vous êtes malin, si vous savez faire le commerce avec eux, des rubis à des prix. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, vous, parce que vous n'êtes pas de la partie. Ça vaut tout de même mieux que d'aller échanger des bijoux travaillés, mais en fixe, contre des bijoux mastoc, mais en or. Même à 23 ans, cette affaire n'était même pas de lui d'ailleurs, un blanc l'a faite avec le roi de Siam il y a une cinquantaine d'années. Mais il voulait à toute force aller chez eux. Étonnant qu'il ne l'ait pas zigouillé dès ce moment-là. Il a toujours voulu faire le chef. Comme je vous le disais, il y a des jours où ça ne réussit pas. Ils le lui ont bien fait voir en Europe. 200 000 francs. Trouver 200 000 francs comme ça, pas si facile que de jouer les seigneurs. Pourtant, il n'y a pas à dire, il en impose aux indigènes.
Il a besoin d'argent?
Pas pour vivre, bien sûr, surtout là-haut. Les chaloupes accostaient, chargées d'Indiens qui tordaient en montant leurs turbans trempés et de fruits. L'Arménien suivit l'envoyé d'un hôtel.
Fin de la première face de la première cassette, page 23. André Malraux, La Voix Royale.